Bonsoir à chacune et à chacun. Merci d'avoir répondu à cette invitation pour la présentation des deux ouvrages de la collection que va nous présenter bien évidemment le responsable de la collection. Je vous laisse vous installer, Jean-Yves Rioux, historien de l'Église, auteur d'une histoire du scoutisme catholique et directeur des éditions CLD qui publie les deux ouvrages que nous allons avoir ce soir comme moment un peu important pour des figures jésuites, dont Henri de Lubac et Gaston Fessard, avec des auteurs qui ont longuement étudié les œuvres. Je vous laisse nous expliquer, Veilleurs de la foi, cette nouvelle collection qui fait partie des éditions CLD. Merci Jean-Yves.
Merci Dominique. Je ne suis pas historien, je suis journaliste et éditeur. La collection Veilleurs de la foi est une collection qui remonte aux années 80 du siècle précédent. C'était une idée du père Guy Bédouel. Guy Bédouel, c'est un théologien.
Ok, merci. Vous avez entendu ou je...
Non, il faut que...
Non, on n'entend rien. Pénible.
Voilà. Ok, donc la collection Veilleurs de la foi, c'est la maison d'édition CLD. CLD, c'est une maison d'édition qui date des années 70, qui ça veut dire cahier du livre et du disque, qui a été très présente dans l'édition régionale et religieuse. Et aujourd'hui, c'est plutôt le religieux, le régional a été un peu de côté. Et alors dans les années 80 du siècle précédent, le père Guy Bédouel, qui est un théologien, un historien de l'Église, lui un vrai, qui a été aussi recteur de l'Université catholique de l'Ouest, a lancé cette collection, les Veilleurs de la foi. Alors c'est une collection qui a marché moyennement, mais l'idée était très bonne. L'idée c'est de présenter des personnalités, des catholiques essentiels qui pouvaient aider leurs contemporains à vivre et à vivre mieux. Et alors dans les premiers livres, il y a eu le cardinal Newman qui a été publié par Honoré, le cardinal Honoré de Tours, c'est normal, c'était la maison était à Tours. Ça a sûrement bien marché. Il y a eu Thomas More avec le père Aimonet, je crois, ou Louis Bouillet. Il y a eu le cardinal Journet, il y a eu toute une série. Puis après, il y a eu Savonarole, Montalembert, etc. Ça, c'était moins intéressant. C'est moins intéressant dans le concept de l'époque. Et puis donc la collection s'est arrêtée. Et nous, on a eu l'idée de la relancer. On a eu l'idée de la relancer parce que on s'est aperçu qu'au niveau de l'histoire aujourd'hui, beaucoup de noms qui avaient compté au XXe siècle n'étaient pas forcément entendus. Moi, j'étais intéressé aussi par ce que disait le pape Paul VI dans Evangelii Nuciandi. Il dit les hommes contemporains n'écoutent pas les maîtres, mais ils écoutent les témoins. Et ils écoutent les maîtres quand ces maîtres sont aussi des témoins. Et si vous voulez, je pense que Fessard et Lubac sont des intellectuels de haut vol, mais si ce sont que des intellectuels de haut vol, ça ne parle pas à tout le monde. Donc l'idée, c'était aussi de relancer la collection en offrant à un public plus large, qu'un public spécialisé, qu'un public un peu pointu, si vous voulez, donc d'expliquer ce que c'était ces Veilleurs de la foi. Qui étaient d'abord peut-être, de mon point de vue, des témoins avant d'être des maîtres. Parce que moi, jeune, j'ai découvert les noms de Fessard et Lubac, et ils ont compté dans mon itinéraire. Donc et j'entends aujourd'hui des jeunes, si vous voulez, qui sont dans l'Église et qui savent pas ou qui n'ont jamais entendu les noms de Lubac et Fessard. Alors l'idée, c'était de... Donc l'idée, c'est de les faire connaître. Et l'idée, c'est aussi de dire, bon... l'ancienne collection, c'était une collection un peu de biographie spirituelle, et nous voulons faire quelque chose de didactique et de pédagogique. Ça se lie avec l'histoire des témoins et des maîtres, hein, une nouvelle dialectique pour Alban. Il faut faire des livres qui sont des livres qui touchent le public le plus large. Et le public le plus large, ça veut dire qu'il y a une présentation qui est didactique. En fait, tous les livres se construisent de la même manière. C'est la vie, l'œuvre et la postérité. Donc en fait, les gens qui veulent entrer dans les vies de ces personnages, ils peuvent lire la vie, et puis s'ils veulent aller plus loin, ils lisent l'œuvre. Et puis c'est important de savoir aussi si ces personnages nous parlent encore aujourd'hui. Donc il y a une troisième entrée qui est la postérité. Donc systématiquement, tous les livres de la collection sont construits de la même manière. la vie de la personne que l'on présente, son œuvre. Et là, des fois, c'est compliqué. Hein. Le prochain, après Fessard et Lubach, enfin Lubach-Fessard dans l'ordre, c'est Blondel. Donc, vous voyez, pour des jeunes aujourd'hui, entrer dans Blondel, ben, c'est compliqué. Voilà. Et je pense que donc ces deux livres, Lubach et Fessard, sont des livres d'utilité publique. Il s'agit de montrer des catholiques essentiels, des gens qui ont compté, et de les faire connaître à tout le monde, c'est-à-dire à la fois d'abord aux jeunes générations. Pour l'anecdote, ça s'est pas passé avec tout le monde, mais pour l'anecdote, on a quand même fait relire les livres par des groupes de jeunes professionnels, donc des gens qui étaient des gens de haut niveau, hein, c'est-à-dire des gens HEC, pilotes de chasse, profs d'histoire, agrégés de philo. Eh ben oui, ben en lisant les livres, ils sont aperçus qu'il y avait beaucoup de choses qu'ils ne comprenaient pas. Donc même des gens qui étaient de bon niveau. Donc l'idée c'est ça, il y a une espèce de maïeutique pour permettre aussi à un public plus large de découvrir des personnalités essentielles. Et je crois que pour les deux premiers, c'était plutôt réussi, c'est-à-dire que nous avons trouvé, parce que quand on veut faire du didactisme ou de la pédagogie, il faut aussi trouver les bons auteurs. C'est-à-dire que les auteurs, il faut qu'ils maîtrisent leur sujet, parce qu'on ne fait pas de la pédagogie comme ça, hein, vous êtes d'accord. Et donc je crois qu'on a trouvé les bons auteurs, et leur humilité en souffrira. On a été content de faire un Lubach avec Marie-Gabrielle, et un Fessard avec Alban. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup Jean-Yves. Donc vous avez un peu annoncé le déroulé de la soirée, je vais le reprendre pour vous. Nous allons commencer avec la présentation par Alban Massy de cet ouvrage sur Gaston Fessard, qui sera en écho et en résonance avec un répondant qui est Giulio Di Ligio, qui est philosophe de l'Université catholique de l'Ouest, que je suis heureuse d'accueillir ce soir. Et ensuite, nous prolongerons, sans que vous puissiez encore poser de questions, vous allez garder vos questions sur Fessard pour la fin de présentation. Nous inviterons Marie-Gabrielle Lemaire, merci infiniment de nous avoir rejoints pour la présentation de cet ouvrage, de cette biographie, et avec l'écho, le répondant d'un auteur qui a aussi beaucoup travaillé, Henri de Lubach, Michel Feydeau, et vous avez l'ouvrage de Michel qui est voilà entre les mains de Luigi.
Giulio,
Henri de Lubach, théologien. Voilà, donc deux spécialistes. Merci à tous de garder donc précieusement vos questions. Vous pouvez les noter et nous aurons un temps de questions à partir de 21h. Donc je présente rapidement Alban. Merci. Alban, tu es jésuite, docteur en théologie dans cette maison depuis déjà quelques années. Tu es aussi spécialiste de sciences de l'Antiquité et tu travailles à l'EPHE. Tu es donc théologien et philosophe, mais aussi journaliste. Et tu enseignes plus particulièrement ici aux facultés Loyola la théologie sacramentelle, patristique et fondamentale. Tu es en outre directeur de la Nouvelle Revue théologique. Et tu tenais à le souligner, par ailleurs aussi, aumônier de prison. Donc, cette biographie que tu nous proposes, tu as en outre, cette année, vous voyez, il y a une grande activité autour des œuvres de Gaston Fessard, un colloque qui a été en partenariat entre les facultés Loyola et le Collège des Bernardins, les facultés de Notre-Dame, à l'écoute de Gaston Fessard, son actualité, sa pensée, ses dialogues. Colloque qui a eu lieu en juin dernier, dont les actes seront possiblement en librairie en mars. Voilà. Et vous pouvez, la salle, voilà, de non pas de presse, mais d'ouvrage, la librairie a accepté de cette ouverture exceptionnelle, hein, puisque nous sommes encore en février. Donc, en vis-à-vis d'Alban, je suis ravie d'accueillir Giulio Di Ligio, philosophe en philosophie politique, maître de conférence à l'Université catholique de l'Ouest à Angers, où il dirige la recherche au sein du département de sciences politiques. Il enseigne également la philosophie politique, l'éthique et la sociologie à l'Institut catholique de Paris. Et à Sciences Po, il a dirigé la nouvelle édition du premier ouvrage de Fessard, Pax Nostra, la réédition, en 2022. Et donc, voilà, Alban aura un répondant tout à fait aguerri dans la lecture, avec les étudiants et en termes de recherche, de Gaston Fessard. Je te passe la parole tout de suite.
Merci beaucoup, Dominique.
C'est toujours magnifique d'être introduit par quelqu'un qui connaît le sujet, puisque Dominique, tu fais partie de ceux et celles qui sont intervenus au colloque Fessard, et tu donnes un séminaire ce semestre sur Gaston Fessard, d'ailleurs. Comment est-ce que je suis venu à Gaston Fessard? C'est au cours de mes études chez les jésuites, alors que j'étais séminariste il y a une trentaine d'années. Et on entendait un peu parler de cet homme qui arrivait à débrouiller des situations complexes à travers des catégories, à travers des mouvements qui vont de l'avant à l'après, qui permettent de bien saisir les choses, de pouvoir discerner. En étudiant les exercices spirituels, là où j'étais, dans cette faculté jésuite de Bruxelles où j'étais, et puis on m'a proposé de travailler sur, enfin j'ai demandé à travailler sur Fessard, parce que j'avais envie de voir comment est-ce que on peut discerner le rapport entre la morale et la vie publique. J'avais été touché par le livre du père Garrigue sur la politique du meilleur possible. La politique, c'est pas le bien ou le mal, c'est le meilleur possible, écrivait-il. Et je voulais creuser cette question et je me suis attelé à la lecture de Gaston Fessard, Autorité bien commun, Pax Nostra. Et du coup, j'ai rencontré l'héritier de Gaston Fessard, qui était le père Michel Salles, qui m'a orienté. Et petit à petit, j'ai découvert une, non pas simplement un intellectuel, mais une figure et un témoin, un veilleur de la foi. Et c'est ainsi que lorsque Jean-Yves Rioux m'a demandé d'écrire cette biographie, cette vie de Gaston Fessard, dans sa collection, j'ai tout de suite accepté parce que je sentais bien que ça répondait à un besoin. Il n'existait pas de biographie assez complète de Gaston Fessard. Il faut aller voir la monumentale biographie d'Henri de Lubac au Serre pour aller chercher dans l'index les entrées Gaston Fessard. Et puis là, on peut suivre presque pas à pas l'histoire de Gaston Fessard, puisqu'elle est très proche de son grand ami Henri de Lubac. Et donc c'est très bien que ce soir, Henri de Lubac et Gaston Fessard soient mis ensemble. Ils se sont rencontrés juste après la guerre, de la Première Guerre mondiale, en arrivant au Scholastica de Jersey. Peut-être qu'on va demander à ceux qui sont...
Voilà.
Alors,
oui, tout à fait. Puis sans doute peut-être à plutôt après-demain.
On va demander aux gens. Alors, comment est-ce qu'on fait pour enlever le son?
Donc ça va, ouais, très bien.
On va demander à ceux qui sont en Zoom de bien enlever leur micro. Merci.
Je sais pas.
Merci.
Excuse-moi.
De ne pas parler. Il doit y avoir une fonction, mais je ne la vois pas. Voilà. Non, c'est pas là. Oui, alors...
Oui, voilà, je sais pas. Oui, ok. Allez, à plus. Oui.
Ton micro est coupé, là?
Non. Non, les micros ne sont pas coupés. Bon, si quelqu'un sait le faire, je veux bien qu'il passe et qu'il se mette là. Ça va me permettre de continuer. Oui, Fessard et Lubac se rencontrent en 1919 à la sortie de la guerre. Et il y a une petite anecdote, c'est Henri de Lubac qui vient saluer Fessard en présentant ses respects parce que il croyait qu'il était le supérieur de la maison. En effet, Gaston Fessard avait eu ses cheveux blanchis par la guerre. Il avait été gravement blessé, et Lubac aussi, mais pas de la même manière. Et donc, Lubac avait cru que Fessard était le supérieur. Euh, Avec cette amitié décisive avec Henri de Lubac, il y a une autre découverte fondamentale chez Fessard, c'est en 1926 la découverte de Hegel, qui va l'aider à penser la dialectique des conflits humains et politiques. Je te remercie beaucoup, Grégoire. Fessard est nommé en 1934 dans les revues jésuites, secrétaire aux études et puis aux recherches de sciences religieuses. Il va être témoin direct en la même année, en 1934, de la mise en scène nazie. Il est en voyage d'études, il participe à un congrès à Prague et il en profite avec Yves de Montcheuil pour aller voir l'Allemagne. Et il va à Nuremberg, et il participe, ils prennent tous les deux des billets pour la grande fête nazie de Nuremberg et ils entendent Hitler à cette occasion. Deux ans plus tard, il publie Pax Nostra, son premier grand livre, Examen de conscience international. Face à une situation politique internationale extrêmement compliquée, il publie Le dialogue catholique communiste est-il possible en 1937, au moment de la main tendue des communistes aux catholiques. C'est le moment où Pie XI condamne à la fois le communisme et le néo-paganisme nazi. Pendant l'occupation, il écrit et diffuse clandestinement pour former les consciences les cahiers du témoignage chrétien. Il n'est pas le seul, avec Chaillet, avec Lubac, avec d'autres, et notamment « France, prends garde de perdre ton âme » en 1941. Puis vient un fameux ouvrage « Autorité et bien commun » en 1944, et puis, dans l'immédiate après-guerre, « France, prends garde de perdre ta liberté ». La crise doctrinale ouverte par le néotomisme en 1947 durcit après Humani Generis, le frappe de plein fouet, surveillance, censure, tension avec ses supérieurs, éviction des recherches de sciences religieuses, mais il continue son travail sur la liberté et l'histoire. Ainsi, en 1951, c'est « Paix ou guerre, notre paix », où il s'interroge sur la valeur universelle des exercices spirituels et écrit une magistrale dialectique des exercices spirituels dès 1956. Ce sera trois tomes dont le dernier tome sera publié après sa mort. Il réfléchit au fondement de la société et sur la manière dont une société peut avancer. C'est de l'actualité historique, en 1960. En 1962, il est envoyé par ses supérieurs à Chantilly. Il n'est plus aux recherches de sciences religieuses et il quitte les études. Il va traverser Vatican II, puis les fractures post-1968, y compris au sein de la Compagnie de Jésus, tout en continuant d'éclairer sur les dérives idéologiques jusqu'à chrétien marxiste et théologie de la libération. Il meurt le 18 juin 1978 en Corse alors qu'il était en train de travailler sur un manuscrit qui va devenir Église de France, prends garde de perdre la foi, qui va paraître en 1979. Prends garde de perdre ton âme. Prends garde de perdre ta liberté. Église de France, prends garde de perdre la foi. Ces trois « prends garde » sont trois alertes situées à des moments décisifs, l'occupation, l'après-guerre, l'après-concile. Mais au fond, ces trois ouvrages rejoue une même mélodie. Et c'est peut-être ça ce qui a été pour Fessard quelque chose de difficile à faire passer, que sa méthode, eh bien, était valable en 1941, en 1946, en 1978. Alors, quelles logiques sont à l'œuvre dans les relations humaines? Voilà ce qu'il se pose comme question. Comment ces logiques fabriquent des consentements, mais aussi des servitudes, des trahisons spirituelles même, des logiques, des dialectiques qui poussent au discernement, qui permettent la liberté de s'engager. À 30 ans de distance, entre 1941 et 1978, eh bien, Fessard utilise les mêmes mots pour opérer sur le discernement, en 1941 sur le nazisme, en 1946 sur le communisme, et en 1978 sur les dérives dans l'Église. Trois mots qu'on retrouve dans ces trois ouvrages. Séduire, compromettre et pervertir ou détruire. Cela avait fait grand effet en 1941 que quelqu'un ose dire « Attention, le nazisme vous séduit. Le nazisme veut vous compromettre. Le nazisme veut vous pervertir et vous détruire. » En 1978, il reprend le texte des règles de discernement ignatien sur l'ange de la lumière, qui est précisément ce séducteur, et qui se déguise. Alors, eh bien, lui, son rôle, Gaston Fessard, c'est de dénoncer, de dégager, d'engager, de libérer. Les trois dialectiques que vous connaissez sans doute déjà sont précisément les outils qui permettent ce mouvement de la dénonciation à la libération. Des dialectiques qui permettent de lire les conflits autrement que comme des slogans. Alors je prends très rapidement ces trois dialectiques juif païen, maître-esclave, homme-femme, ou plus exactement dans l'ordre d'apparition du naturel au surnaturel, disait-il, la dialectique maître-esclave, qui est une dialectique brutale, qui est une dialectique hegélienne, pure et dure, la dialectique homme-femme, qu'il appelle la dialectique humaine, qui nous montre que les relations entre maître et esclave ne peuvent pas suffire, mais que la dialectique de l'amour, puisqu'il s'agit bien de cela, dans la dialectique de l'homme et de la femme, eh bien c'est ce qui permet une fécondité dans les relations. Et puis cette dialectique du juif et du païen, qui est une dialectique qu'il appelle surnaturelle, puisqu'elle met en jeu les ressources de l'humanité, et ces ressources sont orientées vers le transcendant. On ne peut pas parler de juifs et de païens sans parler de l'élection divine et du salut pour toutes les nations. Dans France, prends garde de perdre ton âme, en 1941, cette dialectique païen-juif est évidemment très présente. Je vous cite une phrase de ce cahier clandestin. Gaston Fessard écrit « La révélation du Christ est inconciliable avec le mythe du sang et de la race. » Il y a une vérité spirituelle dans le consentement. La dialectique païen-juif permet de repérer la tentation d'un sacré de remplacement, ce qu'un Raymond Aron appellera religion séculière. Alors quand il dit attention, prends garde de perdre ton âme, c'est prends garde de céder à une idolâtrie. qui se donne les apparences de la nécessité, de l'ordre, de la grandeur et même de la paix civile. Fessard ose aborder la crise comme une crise de fidélité. Fidélité au Dieu vivant ou divinisation du politique. Dialectique païen-juif, dialectique maître-esclave, évidemment, un peuple de maîtres qui soumet toutes les nations esclaves. Ce qui, dans tous les temps, a agi le plus efficacement, dit Fessard dans ce cahier clandestin du témoignage chrétien, c'est la terreur. L'occupation met en scène cette domination frontale, un ordre imposé, avec la propagande, avec des compromissions. Résister devient alors un acte de liberté intérieure, autant qu'une prise de position extérieure. Le schème maître-esclave montre comment un peuple peut être fabriqué comme esclave. Et puis la dialectique homme-femme, ce niveau anthropologique du lien qui doit résister à la tentation de la fusion. L'homme et la femme, deux êtres différents. Dans ce texte, eh bien, de 1941, elle est visible tout simplement parce que Fessard cite le théoricien, pas le théoricien, mais celui qui fait la publicité du nazisme, hein, Rosenberg, qui écrit « Du christianisme, il faut garder tout ce qui en lui est exaltation de la vie, mais une vie avec un grand V. » Pour le nazisme, c'est cela. Et la femme est au service de cette exaltation. Mais au contraire, la dialectique homme-femme chez Fessard, eh bien, elle sert à penser ce double danger du lien, soit la fusion dans la vie, avec un grand V, où la personne est supprimée, soit la rupture, on supprime les différences et l'histoire n'est plus possible. Il sauve le rapport homme-femme comme un rapport d'amour, de vie et d'engendrement, de fécondité. Et là, les idéologies totalitaires ne peuvent rien. La personne n'a pas seulement une fonction biologique, elle n'a pas seulement une fonction politique, elle est faite pour aimer. Ces trois ressources pour analyser une situation dramatique comme celle de l'occupation, on les retrouve dans « France prend garde de perdre ta liberté » en 1946, où là c'est contre la tentation de laisser le pouvoir communiste dialoguer et plus que ça prendre les rênes d'un pays, alors même que ce parti, dit-il, est lui-même esclave de Staline. Il l'écrit noir sur blanc dans son petit livre « Prends garde de perdre ta liberté ». Dialectique maître-esclave, il ose faire le parallèle entre parti communiste et maréchal Pétain. Tous les deux sont princes esclaves. Alors évidemment, les communistes se sont beaucoup pris à Fessard à ce moment-là. Il a même été accusé d'être pétiniste. Après tout ce que je viens de dire en 1941, c'est assez étrange. Mais ce qu'il veut dire, c'est qu'on peut changer de maître, mais sans devenir libre pour autant. Alors la dialectique païen-juif, elle est aussi présente dans la mesure où il y a une prétention à l'universel du communisme. Et c'est le païen qui n'accepte pas le juif et la singularité d'une révélation qui nous oblige à reconnaître une transcendance. Nouvelle forme d'idolâtrie, Ce n'est plus celle de la race ou de l'État-nation, mais celle de l'histoire, de la classe, du parti. L'idolâtrie du lendemain qui chante. Et puis dialectique, homme-femme, où la liberté est présentée comme la vraie structure de relation. C'est pas seulement un droit, la liberté. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous, oui, soyez libres. Mais la liberté, c'est ce qui nous permet d'habiter des relations non totalitaires. La dialectique homme-femme rappelle alors, dans la famille, dans l'amitié, dans la communauté et même le peuple, que chacun est porteur d'une altérité et non pas d'une absorption. Autrement dit, une société libre se reconnaît à la qualité de ses relations élémentaires, ce qu'il dénonce dans la prétention communiste avec le résultat de l'URSS à son époque. Et puis, Église de France prend garde de perdre la foi, là, la tentation est à l'intérieur de l'Église. Je vais aller un peu plus vite parce qu'il le faut, on aura l'occasion peut-être d'y revenir. Fessard affirme que l'Église ne peut servir les pauvres, et c'est bien sûr l'idéal des évêques, de l'Action catholique, de la commission de l'Épiscopat sur la mission ouvrière, qui pensait pouvoir utiliser les grilles de lecture de la société par le marxisme. Fessard lui dit, l'Église ne peut servir les pauvres si elle trahit la foi. Il faut accepter d'être purifié. Comment ? Eh bien, en regardant la dialectique païen-juif. Ici, eh bien, c'est refuser que la foi soit dissoute dans des catégories politiques, sociologiques ou morales. Il y a un contenu de la foi, mais il est révélé. Et l'Église court le risque d'adopter un langage païen, c'est-à-dire universel, mais qui n'a que l'horizon du monde comme horizon ultime. La dialectique maître-esclave, eh bien, c'est évidemment la manière dont une communauté croyante peut perdre sa liberté spirituelle. Elle ne pense plus à partir de la foi, mais à partir des dominations symboliques du moment. Alors c'est une lecture à cette époque qui sera la lutte des classes, et puis ce sera la lutte des genders, et puis etc., etc. Mais on ne peut pas limiter la foi à ce type de discours. Et finalement, eh bien, c'est toujours cette question de l'amour. Gaston Fessard est, je crois, un philosophe de l'amour à sa manière, avec la dialectique homme-femme, qui montre l'Église dans un face-à-face d'amour avec le Christ, et non pas seulement en figure prophétique de mission sociale. Alors, ces trois livres que je vous ai présenté de manière très caricaturale avec cette grille, ces grilles qui ne sont pas explicitement montrées ainsi par Fessard. C'est déjà un travail d'interprétation que je fais. Mais je vois quand même, voilà, les trois moments. Hein, qu'est-ce qui, dans une crise, détruit la liberté humaine, la relation aux autres, l'orientation vers Dieu? C'est ça ce que veulent dire ces dialectiques, avec des mécanismes de domination, de servitude, la constitution du lien ou un discernement spirituel ultime. Chaque prend garde déplace le théâtre ou se prend garde à toi, hein, du toréador, peut-être, et derrière cela, non, prends garde, choisis ta méthode. En 1941, une menace qui est l'idole totalitaire. En 1946, la menace de l'asservissement par une promesse de libération totale. en 1978 la menace d'un asservissement intérieur de l'Église à des catégories qui effacent la spécificité de la foi. Fessard, maître du discernement, mais aussi Fessard n'a pas seulement écrit des livres, il a vécu ce qu'il pensait. Et sa vie est un témoignage évangélique au sens fort. Il a montré que le christianisme n'est pas une fuite hors de l'histoire, mais une manière exigeante d'y habiter en homme libre. Je vous remercie.
Merci Alban. Je, sans transition, plutôt dans la résonance, dans l'écho à ce qui vient de nous être partagé dans ce livre, dans ces éléments de l'ouvrage biographique qui nous donne envie d'aller nous plonger. Luigi, à vous.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Alban. Je suis très content de présenter ces livres. J'ai la chance de travailler depuis quelques temps désormais avec Alban et Dominique dans les cadres de la société Fessard, des amis, si j'ose dire, à la compréhension et l'actualisation de cette œuvre. Et du coup, je suis heureux ce soir d'en discuter avec vous. Mais je dirais d'abord que je suis heureux de les 15 minutes que j'ai à mes dispositions, de contribuer à cet hommage, aux deux hommages, à cette présentation conjointe. Je vais dire un mot ce sujet, puisque l'œuvre théologique de Fessard et de Lubach, de Père Fessard et de Lubach, me semble honorer inséparablement la raison et la foi. C'est une chose à remarquer, parce que leur travail fraternel est en soi un témoignage exemplaire, le fait même pour de si grands esprits d'avoir travaillé ensemble me semble avoir quelque chose d'une leçon. Leur correspondance que j'ai eu la chance d'étudier, qui a presque 1000 lettres, quand on la lit, on voit qu'elle soutient, s'agissant des témoignages, qu'en un sens, elle soutient elle-même l'espérance. C'est quand même rare, ayant lu quand même quelques correspondances entre philosophes et théologiens, de trouver un échange sur un siècle presque qui dégage un esprit si fraternel, si humble, qui un esprit qui rend crédible la foi. C'est l'expérience que j'ai faite en les lisant, qui montre comment l'intelligence purifie la charité, pardonnez-moi, purifie l'intelligence. Et les pages lumineuses que le père de Lubach a consacrées à son ami plus tard, comme il est celui qui a survécu à l'autre, mais ça me couronnait un chemin fraternel où, si j'ose dire, les deux amis, par l'amitié, ont été l'un pour l'autre un directeur des consciences. Si on peut parler des directeurs des consciences entre deux amis, en tout cas une direction amicale des consciences. Et je voulais juste citer une citation entre toutes que vous trouvez dans cette correspondance, qu'on doit au cardinal de Lubach, qui offre une règle lumineuse de travail intellectuel que j'essaie de suivre, je l'ai même noté dans mon bureau à l'université. Son lettre de Lubach a fait ça du 11 avril 1924, je vous la cite. Au revoir mon cher ami. J'ai prierai avec vous pendant la semaine sainte pour que nous obtenions de faire quelques biens et de savoir prolonger notre réflexion par une religion véritable. Un certain psittacisme est toujours à vaincre à la matière, et quand on travaille habituellement à la philosophie, on risque de tomber dans un irrespect pour des hauts sujets sous lesquels on médite, analogue à celui des saints chrétiens pour les choses saintes. Surtout, prions notre Seigneur pour qu'il soit l'aboutissement de notre travail. Fin de citation. Donc, personne ne m'écrit de mail comme ça, mais j'aimerais que ce soit le cas. Donc, l'actualité de l'héritage de Fessard dont il est question, l'actualité de l'héritage de Fessard est presque un pléonasme, pour ce que vient de dire Alban, parce que c'est dans l'actualité historique que Fessard, le père Fessard, a cherché la présence du Verbe et qu'il s'est efforcé d'éclairer les choix libres des hommes, les choix libres des chrétiens, les choix libres des hommes de bonne volonté. Discerner les kairos, discerner l'instant en rapport à l'actualité, à l'éternité, discerner les signes de temps, la situation spirituelle de l'humanité à travers les paroles, les attachements, les événements, fut son grand talent, même s'il était soutenu par la leçon, les magistères de Saint-Ignace. discerner l'instant, discerner la signification de l'événement, de le désattachement, de la parole, de chaque ici et maintenant, hic et nunc, c'est la formule latine que tout le monde connaît quand on étudie ça. Ici et maintenant. Le livre d'Alban Massy rend, à mon avis, je le pense vraiment, je l'ai écrit, un service précieux à l'intelligence de cet héritage, et donc à l'héritage, au discernement de notre actualité. Par-delà les exigences éditoriales, donc la collection en structure, et ou les facilités de ceux qui aiment mon auteur, non, qui ont envie de dire qu'il est actuel, il me semble que Alban était conduit irrésistiblement, suivant la cohérence de la méthode de Fessard, invité à en chercher la mise en œuvre dans les crises présentes, par une exigence un peu irrésistible. Puisque l'œuvre de Fessard est de celle qui résiste au résumé, effectivement, on peine souvent à savoir comment en faire l'intercesseur, comment présenter Fessard à d'autres, et Alban s'est efforcé de suivre cet exercice, de le présenter à d'autres, je trouve qu'il a réussi. Donc un service précieux, pourquoi ? J'essaie d'être, avant d'en venir à mes questions, mais en tout cas de relever quelques traits du livre. D'abord parce qu'il retrace l'itinéraire d'un directeur de conscience à partir de sa propre élection et de l'approfondissement de sa vocation. Comment on devient un directeur de conscience ? On pourrait s'en demander, comment on choisit sa vocation. Ensuite parce qu'il présente simplement les œuvres et la démarche de Fessard, ce qui n'est pas simple. Et j'ajoute qu'il guide bien les lecteurs, ce livre, en écartant des difficultés ou des équivoques qui tendent à décourager la lecture de Fessard, mais je précise, parfois à cause du style de Fessard, mais souvent aussi à cause de la paresse intellectuelle des lecteurs, à cause d'une mauvaise foi politique, voire à cause de certaines confusions spirituelles qu'on n'a pas envie d'examiner. Les obstacles qui entravent la lecture de Fessard ne tiennent pas souvent, je trouve, uniquement ou principalement son style. Et du coup, grâce à ces portraits d'Alban, je trouve qu'on comprend très bien le profil complet de Fessard, que Alban résume ainsi, je le cite, derrière les polémistes, se profile le philosophe et le théologien, mais aussi l'accompagnateur spirituel, les témoins du Christ acceptant l'échange avec des incroyants. Il y a tout là-dedans. Et j'ajouterai aussi qu'avec tact entre les lignes, Alban laisse deviner les sources d'un certain malaise des chrétiens ou de l'Église à l'égard de Fessard. Il le dit avec tact, mais il nous guide aussi sur ce sujet. Donc, je voudrais partager quelques remarques sur ce que les livres incitent à formuler pour inviter à sa lecture. Donc, peut-être on l'a déjà dit là. Il y a déjà le fait de savoir, cette manière de saluer la collection, qu'on découvre, même pour ceux qui connaissent un peu assez, qui fréquentent régulièrement l'œuvre de Fessard, qu'on découvre des traits très parlants de la vie de Fessard, son élection presque des premiers temps, comment il est arrivé à sa vocation, jusqu'à sa mort, en passant par l'expérience de la guerre, ses épreuves dans l'Église, vécues dans l'humilité et l'obéissance, comme le cardinal de Lubac, ses dialogues. Je dirais que parmi les pages les plus réussies et mouvantes, il y a certainement les pages sous la mort de Fessard, qui est une mort en scène. Fessard est mort au combat, si j'ose dire, penché sur un manuscrit, illustrant le principe d'indifférence, indifférence à la mort, au service de la vérité, et après avoir célébré toute la semaine joyeusement la messe. Alban présente à raison tous les livres d'Alban est placé sous les signes de deux traits très remarquables de Fessard, le courage et la clairvoyance. Et je dois dire, pour nous compliquer la vie et penser ensemble, que c'est pas si rare, si fréquent que ça, de trouver un théologien qui a du courage et de la clairvoyance en matière politique. C'est même un problème très sérieux pour quelqu'un qui enseigne la philosophie politique et la théologie politique, inspiré par la foi, de répondre à la question, mais pourquoi les chrétiens se trompent si souvent en politique? Et donc, c'est très important, le témoignage de Fessard, et donc notre oubli coupable de sa figure, parce qu'il y avait quand même un théologien qui a si bien désigné, discerné les régimes politiques, les tentations, la vie des nations. Et un autre trait frappant, il me semble, que ce livre donne à voir, c'est qu'il s'agit là d'une école de discernement, pour citer Alban, mais aussi de quelqu'un qui a prêché dans les déserts, comme Jean le Baptiste, et du coup, une expérience assez encourageante, peut-être, du coup, d'un jugement spirituellement et politiquement lucide qui a été vécu un peu comme quelqu'un, comme une sorte de témoignage dans les déserts, sans applaudissements, sans recevoir de gratifications. Il faut pas se complaire dans cette hypothèse que nous sommes tous des prêcheurs dans les déserts. Parfois on se trompe, on n'est pas, ou alors on n'est pas compris. Mais c'est pas un trait négligeable qu'il vaut la peine de citer. Et puis, comme la deuxième partie de la collection du livre l'illustre bien, il y a tant des aspects de notre, du contenu de l'ordre de Fessard qui, me semble clairement, témoignent de son actualité. L'unité du genre humain qu'il a pensé reste à réaliser. Après un peu les espoirs de la mondialisation, nous y sommes à nouveau, dans les morcellements de l'humanité, la division des nations, la vocation suspendue des nations. Les trois délétiques dont vous venez de voir les résumés me semblent aussi centrales à la condition humaine qu'au premier jour de l'histoire. Et je dirais même qu'un autre trait du contenu de l'ordre de Fessard qui est très éclairant, c'est sa méthode de dialogue. Il est très rare dans notre situation, comme vous le savez, où il est très difficile de dialoguer, d'entamer des conversations, de s'opposer sous les contenus tout en respectant les personnes, de témoigner de ce qu'a témoigné Fessard, c'est-à-dire une capacité de discernement très rigoureux des œuvres des autres, dans un esprit de charité. Donc, comme il le disait, un dialogue, qui est quand même une lutte à mort, hein, en un sens, doit être toujours animé par la charité, mais une charité qui reconnaît que la première charité qu'on doit à ses adversaires, c'est la vérité. Donc c'est très remarquable quand vous lisez Fessard, comment il prend très au sérieux les œuvres des autres, comment il les commente attentivement, et comment il essaie de l'éclairer par la vérité. Et du coup, voilà, peut-être, comme vient de le dire Alban, les traits quand même qui m'a le plus marqué, sous lesquels, qui m'est conduit à mes questions, ou ma question pour entamer le dialogue, est les suivants. C'est exactement, si vous voulez, la confiance que Fessard avait, et dont il témoigne, et qui nous invite à voir, sous la capacité de discerner l'histoire, de discerner la foi, les œuvres de la foi dans l'histoire. Tout à l'heure, j'étais avec une ancienne étudiante doctorante qui me disait, sur tous les sujets de notre époque, très croyante, j'ai le sentiment que j'arrive pas à juger. Sur tous les grands sujets. Donc c'est une atmosphère qu'on éprouve beaucoup en Europe, peut-être l'incapacité que nous avons à clarifier notre regard, à discerner un chrétien, que sais-je, la distinction entre les populistes et les libéraux, les questions de genre, les questions de la crise de la démocratie, nous nous sentons souvent paralysés. Or, le père Fessard a témoigné d'une confiance en la lumière que le Verbe incarné, projette sous une analyse de la situation historique. Je dirais que Fessard prend au sérieux, c'est là que s'est faite ma rencontre avec lui, à partir de la philosophie, si vous voulez. Fessard prend au sérieux le fait, tout simplement, que le Christ nous a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, Matthieu 28:20, et il en a tiré un effort de discernement qui, en chaque épreuve intime ou mondiale, essaie de trouver la ligne des conduites chrétiennes, essaie de nous dire que faire. La manière de rendre active la réconciliation opérée par la croix. Cette entrée qui m'impressionne le plus, cette capacité de discerner les œuvres de la foi dans l'histoire, et donc de mettre à l'œuvre le discernement chrétien, en cette heure de l'histoire humaine où les déchirements pénètrent les nations, les familles, les consciences, l'Église elle-même. La confiance en le fait que, éclairée par le discernement, par l'exercice spirituel, que nos choix libres savent prolonger l'œuvre de la rédemption, qu'avec l'aide de la grâce, nos choix peuvent insérer la réconciliation du Christ dans l'histoire, ici et maintenant, eh bien, très impressionnante. C'est le moment d'hésitation que nous avons tous. Comme le rappelle Alban à plusieurs reprises, l'histoire, toute l'actualité, chaque actualité, et pour Fessard, les lieux de la révélation chrétienne, les lieux où se joue le discernement spirituel, les lieux où la rédemption se prolonge et se vérifie. Donc c'est vraiment l'aspect, et on peut dire rétrospectivement que Fessard a montré que les lumières du Christ opèrent bien dans notre propre expérience de l'histoire. Et donc en ce sens, comme le dit page 181 Alban très clairement, et je pense qu'il n'y a rien de plus à dire sous la... pour présenter l'actualité profonde, l'actualité éternelle de Fessard, il a eu la grâce, si j'ose dire, de savoir conjuguer fidélité aux valeurs spirituelles et lucidité sur l'histoire, qui est une manière de dire la nature et l'essence naturelle. Fidélité aux valeurs spirituelles et la lucidité sur l'histoire. Alors, je disais tout à l'heure, pour passer à ma question finale, je me dispense pas de vous le dire, que j'étais récemment à Namur dans un cadre de jésuites, où ils avaient l'air d'être surpris qu'un jeune, pour ainsi dire, philosophe comme moi, était intéressé à faire ça, comme s'il était inactuel, comme dirait Nietzsche, comme s'il était, voilà. Et donc, pour venir alors à la question que je voudrais introduire, pour Alban et pour prolonger notre débat selon les consignes. J'ai cité tout à l'heure tout ce qu'il y avait des communs et des exemplaires dans Fessar et de Lubac, tout ce qu'il y avait vraiment d'un accompagnement fraternel. Si un jour on publie la correspondance, vous verrez, sans anticiper le jugement de Dieu de l'Église, que vous avez l'impression d'un dialogue des saints, quoi. Je dirais sur un particulier de Lubac, il accompagnait avec une grâce amicale et remarquable. Alors, ce qui est encourageant aussi, qu'il y a eu quand même entre eux, dans ces bas mondes, une divergence, autour, en 1945, une divergence relative, mais où de Lubac avait l'impression, justement, que Fessar, de Lubac, au moment où il écrivait les drames de l'humanisme athée, donc le cardinal de Lubac, qui n'échappait pas du tout les dangers de l'humanisme athée marxiste, il avait l'impression que Fessar, dressant le parallèle d'un France prend garde et perd la liberté en 1945, entre nazisme et communisme, il allait loin. Il allait très loin. Et donc, c'est donc une divergence de méthodes, certainement pas sous la métaphysique marxiste sous laquelle ils avaient les idées claires, mais de Lubac, du coup, était lui-même hésitant. Et du coup, je reviens à ma question. On peut se dire, quelle est la tâche du théologien? Est-ce qu'il s'agit de clarifier, on peut dire, l'attitude fondamentale de l'histoire, l'enjeu au niveau doctrinal, l'humanisme athée voué à des contradictions? Ou est-ce qu'il est celui de mettre les doigts, de clarifier les acteurs historiques, les phénomènes historiques qui traduisent les enjeux au niveau des doctrines? Donc entre, oui, pour moi, ce sont deux livres parallèles, les drames de l'humanisme athée et France prend garde et perd ta liberté, et d'autres deux livres parallèles. Et en même temps, Fessar avait, comme je viens de le dire, ce courage, cette audace de dire, et l'humanisme athée, dans sa métaphysique, aujourd'hui s'incarne dans un mouvement historique qui s'appelle le marxisme, et il y a en partie... Il y a des cinquièmes colonnes, etc. Et là, vous voyez, d'en avoir deux contributions possibles de la théologie. Ou alors des homélies, comme je dis à mes curés. Est-ce que les curés, l'homélie, le prêtre, les théologiens, les chrétiens clarifient les enjeux ultimes? Et puis dans les discernements, nous sommes citoyens, nous sommes hommes libres. Ou est-ce que la parole chrétienne est capable d'être une boussole et dénommer clairement les enjeux historiques, les acteurs des discernés? Alors, la question que je poserai à Alban, la suivante: quel est le rôle aujourd'hui d'un théologien qui s'inspire de Fessar? Quel membre de l'Église aujourd'hui oserait mener l'effort de Fessar sans être accusé de politiser la foi et nommant clairement des enjeux, des alternatives, des dangers? Comment être Fessar aujourd'hui? Comment, je dirais, repérer, nommer les traces et les tâches de la rédemption dans les langages de notre temps, dans les défis politiques de notre temps? Comment être ces prophètes dont parlait le cardinal de Lubac en parlant de Fessar, qui nous a dit que faire au bon moment, sous l'enjeu exact qui était celui de cette époque? Peut-être aujourd'hui c'est l'Europe, les nations, l'écologie. Et je dirais pour conclure, justement Raymond Aron saluait le fait que Fessar avait montré l'importance, Raymond Aron qui était agnostique, son ami, l'importance pour la vie des nations, pour qu'on voit catholique, je cite Aron, s'exprime clairement sous les enjeux du siècle. Ce qu'il célébrait de son ami. Quand on voit catholique, s'exprime clairement sous les enjeux du siècle par un discernement rigoureux. Alors, il me semble que si j'aime Fessar, c'est parce que je me dis, si nous renonçons à la tâche de Fessar, c'est comme si on disait, la foi n'éclaire pas l'histoire, le salut n'est que dans l'autre monde. Il nous abandonne, en somme, les crises dans ce monde, ce qui serait en contradiction. Mais du coup, comment être aujourd'hui fait ça et comment appliquer son discernement? Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Il y a beaucoup de questions, donc il va falloir en choisir une ou deux parce que nous...
J'ai simplement le temps envie avance. De répondre en citant...
Je voudrais laisser la parole à Marie-Gabrielle Lemaire et à Michel Fédoux pour parler de ce grand ami de Fessar, Henri de Lubac. Merci beaucoup pour d'avoir pointé évidemment ce pourquoi Fessar n'est pas si connu que cela, ce pourquoi Fessar n'est pas si accepté que cela. Mais pour répondre à cette dernière question, tiens, comment est-ce qu'un théologien peut être en phase avec son temps, c'est-à-dire de pouvoir discerner, parce que c'est cela dont le temps a besoin. Je vous cite ce qu'il écrit en 1948, justement, à son ami Lubach. Quand je commence un pareil travail de réfléchir sur un point bien précis, notamment le dialogue avec des adversaires de la foi chrétienne, comme il le dit, je n'ai pas du tout l'intention de faire une longue étude. C'est assez amusant, puisque dès que pour répondre à une question, il écrit 100 pages. J'essaie simplement de me rendre compte pourquoi des gens ne sont pas de mon avis sur un point où je crois voir juste. Donc voilà, c'est toute sa question du rapport entre philosophie et théologie. Hein. Il le dit dans l'actualité historique. Mon travail, c'est de creuser l'étroite galerie qui permet à la théologie et à la philosophie de se rejoindre. Il est influencé par Gabriel Marcel, par tous les débats sur une philosophie chrétienne qui doit avoir le nom de chrétien ou qui doit agir et tenir compte du fait chrétien. Pour lui, mettre le Christ, là où il voit juste, c'est le Christ, Christus Pax Nostra Est, eh bien, ce n'est pas tout de suite se transformer en confessionnel. Il dit, il y a un fait du Christ, il faut le reconnaître. Alors il ajoute, si je suis si long et minutieux, c'est que je n'ai pas une théorie toute faite d'avance. Ça, c'est intéressant. Il sait que ce qu'il va étudier, va forcément chambouler toutes ses idées. Aujourd'hui, on dirait, il va se faire déplacer. Eh bien, il le vit. Sa théorie, dit-il, elle se dégage peu à peu des sophismes, il accepte ce mot, auxquels je suis obligé de répondre. Parce que pour lui, le langage a une telle force que si quelque chose lui paraît faux, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le raisonnement. C'est pour ça qu'il va l'appeler sophisme, sans que ce soit péjoratisme. De là le caractère hybride, non seulement mes dernières publications, mais de toutes, à commencer par Pax Nostra. Je crois que c'est cela, pour lui, d'être au contact de celui avec qui il n'est pas d'accord, et d'essayer, au fond, de voir jusqu'où il peut aller avec lui. Et à ce moment-là, de se laisser déplacer, c'est peut-être là où les dialectiques entrent en jeu, et de pouvoir travailler à cette réconciliation. Moi, je suis frappé dans Pax Nostra, comment, pour parler de l'ordre de justice, il est obligé de prendre l'exemple de Saint Jean de Canty, ce saint qui se laisse abuser par des brigands dans la forêt, et il est tellement naïf, tellement bon, tellement miséricordieux avec ses voleurs, que ceux-ci se convertissent. Mais alors, Fessar ajoute une petite histoire, la fin de l'histoire, il dit, imaginons qu'un novice soit à côté de Saint Jean de Canty, et il voit le résultat, et lui aussi se fait attraper par des voleurs qui lui prennent son argent, et qui n'ont pas pris tout l'argent. Alors le novice va courir après les voleurs pour dire « Vous avez oublié quelque chose !» En espérant, bien sûr, que les voleurs vont se convertir et vont lui rendre tout l'argent. Et donc le novice va vers ces voleurs, qui lui prennent la bourse qui lui restait, et qui lui donne 3 coups de bâton en guise d'intérêt. Et Fessar dit, il l'a bien mérité. Parce que son ordre de justice n'était pas mu par la charité. Je crois que c'est ça, ce qu'il y a dans la... Et ça, c'est un Fessard de 1936 qui le dit. Hein, c'est assez simple, c'est naïf, mais je crois que tout au long de ces longues dialectiques, ces longues démonstrations du fondement de la société, grâce au langage, grâce à, dans son dialogue avec le structuralisme, dans son dialogue avec avec Sartre même, eh bien, c'est le même mouvement. Essayer de voir jusqu'où on peut aller. Prendre au sérieux son adversaire. Voilà.
Merci à tous les deux. Merci Giulio. Tu vas devoir nous quitter un tout petit peu plus tôt. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci. Et peut-être...
À tout à l'heure.
Voilà. Oui, à tout de suite, parce que les questions porteront certainement aussi sur cette partie de la soirée. J'invite Marie-Gabrielle Lemaire et Michel Fédou à venir me rejoindre pour la deuxième partie, la présentation de cet ouvrage, Henri de Lubac, dont vous l'avez compris, sous le même modèle, sa vie, son œuvre, sa postérité, sous la plume de Marie-Gabrielle Lemaire et une préface de Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort. Marie-Gabrielle Lemaire, merci d'être avec nous. Vous êtes docteur en théologie, enseignante à la faculté Notre-Dame du Collège des Bernardins, co-autrice de la magistrale biographie Henri de Lubac, en 4 tomes aux éditions du Cerf. Votre thèse porte sur la conversion au Christ et ce thème constitue le principe moteur de la théologie du père de Lubac dont vous êtes une excellente, on pourrait dire, vulgarisatrice, mais aussi chercheuse. Comment cette théologie du père de Lubac permet de comprendre le rapprochement que vous faites entre les perspectives de la théologie du surnaturel et celle de l'exégèse spirituelle de l'écriture. Marie-Gabrielle, vous serez en duo et en écho, la résonance par Michel Fidou. Michel, tu es jésuite dans cette maison, agrégé de lettres classiques, docteur en théologie, professeur, enseignant en patristique et en théologie dogmatique dans cette maison, les facultés Loyola, ex-Centre Sèvres. En 2022, tu as reçu le prix Ratzinger pour l'ensemble de ton œuvre et le prix Gabriel Granté de l'Académie française en 2023 pour l'ensemble de ton travail. Tu es membre depuis fort longtemps du groupe des Dombes et tu as présenté à l'ICP la semaine dernière le dernier ouvrage du groupe des Dombes. Et tu es membre aussi de la commission luthéro-catholique et auteur, je vous le disais tout à l'heure, de cet ouvrage, Henri de Lubac, théologien, qui sera présenté ici même, mercredi 8 avril. Donc pour ceux qui ont envie de prolonger la réflexion, il y aura un deuxième épisode d'Henri de Lubac. Donc Marie-Gabrielle Lemaire, merci beaucoup. Je vous laisse la parole pour un quart d'heure.
On m'avait dit 10 minutes. Je n'ai que 10 minutes.
Très bien.
Je me suis dit, on est en fin de soirée et on n'est pas en fin de semaine, donc je ne vais pas non plus faire trop long. Donc on m'a demandé de présenter l'ouvrage sans consigne particulière, donc j'ai commencé d'une manière très pratique. Hein. Si on accepte la préface et de Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort et les annexes qui comprennent une brève bio-bibliographie avec des dates clés de la vie et de la production théologique du père de Lubac, le corps de l'ouvrage que j'ai écrit donc comprend moins de 200 pages. Ça, c'est pour vous encourager tous à le lire. Il se compose, cela a déjà été présenté, de 3 parties. Hein. La première présente la vie du père de Lubac. Alors, c'est quand même un tour de force en 65 pages de résumé. Je n'ai pas calculé le nombre de pages que font les 4 volumes de la biographie scientifique qui est parue aux éditions du Cerf. Mais c'était absolument essentiel, justement, de présenter sa vie qui est très longue, qui est extrêmement stratégique, puisque Henri de Lubac, comme Gaston Fessard, on vient de le voir, prend part à tous les moments décisifs, en fait, de l'histoire de l'Église du XXe siècle, qui compose encore notre arrière-fond de la situation actuelle dans laquelle nous vivons. On découvre un homme souffrant, audacieux, libre, passionné, fidèle et même très fidèle. Ensuite, en 90 pages à peu près, je présente son œuvre. Ce n'est pas peu dire, je ne sais pas combien d'ouvrages il y a exactement, mais plusieurs dizaines d'ouvrages. Et là aussi, c'était absolument capital de pouvoir embrasser l'ensemble de l'œuvre d'une manière extrêmement synthétique. Alors je l'ai fait en suivant l'ordre chronologique, mais aussi en optant pour une dizaine de clés d'entrée dans l'œuvre, des clés thématiques. Et donc, c'est plusieurs dizaines d'ouvrages du père de Lubac, d'articles qui sont évoqués dans des résumés vraiment drastiques. Il y a comme ça des œuvres majeures qui sont présentées sur une ou deux pages. Bon, le but étant de permettre d'appréhender l'unité organique de cette œuvre monumentale du père de Lubac qui a touché à des sujets extrêmement divers. Et plus on le lit, en fait, plus on est frappé par cette unité, par cette cohérence intrinsèque de l'œuvre du père de Lubac. Et cette unité organique n'est pas seulement doctrinale ou théologique, disons. Elle reflète combien Henri de Lubac se livre lui-même tel qu'il est, en livrant, en fait, le témoignage de sa foi, de sa charité profonde pour Dieu et pour les âmes, comme il dit dans ses paradoxes, ce n'est pas être charitable envers les hommes que de garder enfouis les trésors inépuisables de notre foi. Bien, c'est ça qui motive tout cet effort théologique monumental du père de Lubac, de faire connaître, comprendre, apprécier, goûter ces trésors de notre foi. Témoignage de la foi, témoignage de cette charité, donc de cet amour pour Dieu et pour les âmes, pour le bien des âmes. Témoignage aussi de son espérance chrétienne, dont il montre bien qu'elle transcende nos espoirs humains sans les nier, mais en les transformant, en les transfigurant. Enfin, son sens aimant de la tradition lui donne des ailes d'aigle pour discerner les situations difficiles de l'Église de son temps. Enfin, donc, sur une trentaine de pages, j'évoque la postérité du père de Lubac, une postérité qui est encore jeune, évidemment, il n'y a pas 40 ans aujourd'hui que le père de Lubac est décédé. Mais postérité déjà très significative, d'une fécondité éprouvée. Alors ici, je peux évidemment évoquer les thèses de doctorat en théologie qui ont été consacrées au père de Lubac, mais aussi le travail mené de front par l'Association internationale Cardinal Henri de Lubac, dont nous faisons toutes partie, et qui s'attelle à la publication des œuvres complètes du cardinal de Lubac. Postérité très significative, donc, et, j'en suis certaine, riche de promesses, tant le père de Lubac se révèle et de plus en plus comme un précurseur du XXIe siècle. Et ici, j'ai à l'esprit cette belle parole de Mgr Lustiger qui disait « On hésite à situer le père de Lubac comme un témoin du XIXe siècle, du XXe siècle, pardon, ou comme un précurseur du XXIe. » Précurseur, car en effet, pour vivre l'unité catholique aujourd'hui, son exemple et son œuvre, son discernement, nous procurent des balises qui demeuraient peut-être encore trop inconnues, trop difficiles à discerner à son époque. Proclamer la dignité infrangible de l'être humain en l'ancrant dans la force même de l'attraction de Dieu qui s'exerce en tout homme. Proclamer ce qu'est l'Église, et que c'est l'Église qui chaque jour nous donne Jésus-Christ, par qui seul l'homme peut devenir pleinement homme. Proclamer que Dieu est amour, et le proclamer au beau milieu d'un développement théologique rigoureux, comme il le fait, comme le fait Henri de Lubac à l'occasion, parce que, en effet, théologie et spiritualité ne sont pas séparables. Voilà, entre autres, ce que nous inspire de faire Henri de Lubac aujourd'hui. À nous qui avons, comme toujours, à rendre compte de cette espérance qui est en nous et à vivre joyeusement et hardiment notre foi en Jésus-Christ au milieu d'un monde que l'on qualifie parfois de post-chrétien. Je suis donc très reconnaissante à Jean-Yves Rioux pour la demande qu'il m'a faite de cet ouvrage si nécessaire, rendu encore plus nécessaire depuis l'ouverture du procès de béatification par le diocèse de Lyon du cardinal Henri de Lubac. L'ouvrage, vous l'avez compris, vise à le faire connaître à un plus large public parce qu'il représente effectivement pour les nouvelles générations un veilleur de la foi. Alors, beaucoup de catholiques, en effet, n'ont pas la chance de faire des études de théologie. Mais ils n'en aspirent pas moins, à vos souhaits, ils n'en aspirent pas moins à progresser dans l'intelligence de la foi, à mieux comprendre en fait ce en quoi ils croient. Et ils pourraient se demander si quelqu'un comme Henri de Lubac n'est pas un théologien un peu trop compliqué, réservé aux spécialistes. Pourtant, le fait même qu'un procès de béatification se soit ouvert est significatif que, justement, Henri de Lubac n'est pas seulement proposé comme un modèle, on ne cherche pas seulement à le proposer comme un modèle de sainteté aux théologiens, mais on perçoit un modèle pour tous les catholiques. Ma conviction est que, dans sa clarté et son amour passionné pour la beauté et la grandeur, l'unité profonde des mystères du Christ et de l'Église, Henri de Lubac offre en effet à tous de quoi nourrir la vie spirituelle, en offrant une belle et profonde intelligence de la foi. Il nous apprend à voir grand. Au-delà des modes du moment, en présence d'idéologies ambiantes, au milieu de divisions que nous connaissons entre catholiques, de crises multiples et graves qui traversent l'Église de nos jours, Henri de Lubac offre un discernement sûr, une boussole intérieure pour sentir ce qu'est vraiment être catholique et pour puiser l'audace de proclamer la foi en Jésus-Christ. En un mot, l'intelligence de la foi que prodiguent les œuvres du père de Lubac donne force à l'acte de foi. L'intelligence de la foi donne force à l'acte de foi, à l'acte d'adhésion au dogme du Christ et par là, in fine, à la vocation missionnaire qui fait la responsabilité propre de tout chrétien. Enfin, Henri de Lubac n'a pas fait qu'écrire des ouvrages. Par eux, et au-delà, il a pris position dans les grands tournants de l'histoire du siècle dernier, d'une manière qui demeure aujourd'hui pour nous inspirante, en particulier par la grande liberté intérieure qu'elle illustre. Dans l'humilité de son titre de croyant, qui lui était infiniment plus cher que celui de théologien, Henri de Lubac offre un modèle de fidélité héroïque dans le témoignage à rendre à Jésus-Christ. Lui qui a souffert dans sa chair, mais aussi dans la communion fraternelle et dans l'Église, souffert d'être incompris lorsqu'il n'allait pas exactement, peut-être, dans le sens du courant général. Parce que, précisément, estimait-il, la vérité de l'Évangile est exigée par la force de l'amour dont Dieu nous aime. C'est donc le parfum du Christ qui est répandu dans l'œuvre théologique du père de Lubac. Lui qui a porté avec bravoure sa vocation de compagnon de Jésus, et en effet, faire connaître et aimer Jésus-Christ était bien une devise qui a guidé toute sa vie. Et voilà, j'ai simplement prévu cet exposé-ci.
Marie-Gabrielle, merci infiniment, parce que du coup, je vais pouvoir immédiatement donner la parole à Michel Fédoux. Michel, vous êtes vous aussi membre de la même société internationale, donc tout aussi engagé dans la réception et dans, on pourrait dire, la diffusion de cette œuvre monumentale.
Merci beaucoup, Dominique. Je suis très heureux de prendre la parole au sujet de ce livre de Marie-Gabrielle Lemaire, un livre qui est précédé par une préface élogieuse de Monseigneur de Moulin-Beaufort et qui offre une belle synthèse sur la vie du père de Lubac, sur son œuvre et sur la postérité de cette œuvre, en fournissant beaucoup d'informations et en indiquant aussi certains enjeux de la pensée du père de Lubac pour d'autres temps. Je voudrais tout simplement m'arrêter sur les trois parties de ce livre, principalement sur les deux premières, et comme il m'a été demandé, eh bien je formulerai au terme une question. La première partie, consacrée à la vie du père de Lubac, bénéficie naturellement de l'énorme travail que vous avez accompli avec le père Chantraine, puis à sa suite, hein, ce travail qui a débouché sur une biographie, une immense biographie du père de Lubac en 4 volumes. Et dans le livre qui nous retient ce soir, nous avons comme un condensé de cette biographie dans la première partie du livre. Et cela est fort précieux parce que nous avons ainsi, en une petite centaine de pages, une vue d'ensemble qui permet d'embrasser d'un seul regard les principales phases de l'existence du père de Lubac, ses nombreuses péripéties et ce qui, malgré ou à travers ces péripéties, en fait l'orientation principale ou fondamentale. Après une brève évocation de l'enfance et de la jeunesse, le parcours est organisé autour de 10 étapes. D'abord, ce que vous appelez le traumatisme de la Première Guerre mondiale. Je crois que ce mot traumatisme, effectivement, est très bien choisi, non seulement à cause de la blessure subie en 1917 par le père de Lubac et qui devait lui occasionner beaucoup de souffrances physiques dans toutes les décennies suivantes, mais aussi parce que, comme pour d'autres penseurs de son époque, à commencer par Teilhard de Chardin, cette Première Guerre mondiale a contribué à des prises de conscience inédites sur les évolutions de l'humanité et sur les nouvelles questions qui se posaient en cette première moitié du XXe siècle. Vient ensuite une deuxième étape sur les années de formation. Et Marie-Gabrielle Lemaire montre l'importance qu'ont eu ces années pour le développement d'amitiés indéfectibles avec des confrères jésuites tels que Gaston Fessard ou Yves de Montcheuil. Je voudrais souligner au passage que la longue période de formation dans la Compagnie de Jésus a toujours été et reste toujours une période de grande importance en raison des liens de travail et d'amitié qu'elle suscite, qu'elle crée entre des jésuites d'une même génération. Et en tout cas, cela s'est pleinement vérifié dans le cas du père de Lubac. Puis, après une troisième étape qui est consacrée à l'enseignement et aux premières publications, la quatrième étape du parcours que vous proposez porte sur la Seconde Guerre mondiale. Peut-être est-ce un aspect moins connu, trop peu connu, parce que quand on pense au père de Lubac, en général, on pense d'abord au débat sur le surnaturel et à la fameuse crise de Fourvière en juin 1950, mais cela risque peut-être d'occulter un peu l'importance de ce qui s'est passé pendant cette Seconde Guerre mondiale. Et de fait, en lisant les pages que vous avez écrites sur le sujet, on est impressionné par l'engagement d'Henri de Lubac dans la résistance chrétienne à l'antisémitisme, par le courage de ses positions par rapport au régime de Vichy, par les risques qu'il a pris à travers les conférences, les publications qu'il a données, au point, comme vous le rappelez, d'être menacé par la Gestapo et de devoir quitter Lyon et se réfugier en Haute-Loire. La cinquième étape du parcours porte sur la fameuse affaire de Fourvière, suite aux soupçons d'hétérodoxie qui étaient formulés contre le théologien Henri de Lubac, notamment à propos de ses vues sur le surnaturel. À propos de cette affaire de Fourvière, il est courant d'évoquer avant tout la fameuse mesure qui s'abattit sur lui en 1950 et qui le contraignit à quitter le théologat de Lyon. Mais Marie-Gabrielle Lemaire montre que, en réalité, la situation fut probablement plus rude encore dans les années suivantes. Le père de Lubac, malgré le soutien de beaucoup, demeurait en effet l'objet de graves suspicions et en était profondément blessé, Cela s'ajoutant bien sûr aux terribles souffrances que lui occasionnait toujours sa blessure de la Première Guerre. Les sections consacrées au Concile Vatican II et à l'après-concile rendent compte du retournement qui se produisit à partir de 1960, le père de Lubac ayant été invité comme expert théologique dans la commission préparatoire au Concile Vatican II et bénéficiant par la suite d'une reconnaissance croissante. Mais la période post-conciliaire fut aussi, pour d'autres raisons, une période difficile. Le père de Lubac manifestant en particulier sa vive inquiétude par rapport aux déformations auxquelles l'œuvre conciliaire lui semblait donner lieu, par rapport aux crises qui marquaient alors la société et qui affectaient l'Église elle-même, position sans doute différente de celle d'autres théologiens comme Karl Rahner, Yves Congard ou Marie-Dominique Chelut. Marie-Gabrielle Lemaire souligne que Henri de Lubac, quant à lui, se battait sur deux fronts, refusant tout à la fois le courant lefévriste, qui refusait le Concile Vatican II, et le courant progressiste, qui, aux yeux du père de Lubac, trahissait le sens de ce concile. Je note d'ailleurs que l'inquiétude était déjà sensible pendant le concile lui-même, comme on le voit d'ailleurs par les réactions d'Henri de Lubac par rapport au schéma de la future constitution Gaudium et Spes. Les dernières étapes du parcours que vous proposez présentent les autres travaux du père de Lubac dans les années conciliaires et post-conciliaires, puis son élévation au cardinalat et finalement les graves problèmes de santé qu'il connut jusqu'à son décès en 1991. Je trouve que la lecture de cette première partie du livre montre bien combien la vie du père de Lubac fut non seulement intense, mais à bien des égards dramatique. Ce qui fait d'ailleurs d'autant plus ressortir son mérite d'avoir pu, malgré tout cela, malgré tant de circonstances contraires, produire une œuvre théologique d'une telle ampleur. C'est précisément à cette œuvre qu'est consacrée la deuxième partie de votre livre. C'était évidemment une gageure de le faire, là encore, en une centaine de pages, mais le défi a pu être relevé. Je note d'abord les pages initiales que vous consacrez aux écrits de jeunesse, ces écrits de jeunesse que l'on pourrait être tenté de négliger, mais qui, probablement, sont déjà révélateurs de la pensée ultérieurement développée par le père de Lubac. Je me demande personnellement s'il n'y aura pas intérêt à explorer de manière un peu systématique les écrits du père de Lubac et aussi des passages de sa correspondance sur les philosophes durant toute cette période, ce qu'il a écrit sur Descartes, sur Pascal, sur Spinoza, sur Hegel, sur Blondel. Peut-être cela contribuerait-il à éclairer des options qu'il prendra plus tard sur le rapport entre philosophie et théologie ou encore sur la question du surnaturel. La section suivante porte sur trois ouvrages majeurs. Il était évidemment nécessaire de s'arrêter en premier lieu sur catholicisme. Vous soulignez l'importance toute particulière de ce livre, une importance qui tient à la fois à sa méthode et à son contenu. À sa méthode, puisque le père de Lubac ne propose pas l'explication de thèses empruntées à Thomas d'Aquin ou aux commentateurs de Thomas d'Aquin, mais qu'il s'appuie d'abord sur ce qu'il appelle le trésor trop peu exploité des pères de l'Église. Mais aussi, originalité du contenu, puisque le livre, comme vous l'écrivez, est une œuvre programmatique qui annonce toute l'œuvre ultérieure du père de Lubac. Le deuxième livre que vous présentez est Corpus Mysticum, cette grande étude de théologie historique, extrêmement érudite, sur les rapports intimes de l'Eucharistie et de l'Église. Le troisième livre, enfin, est Méditation sur l'Église, qui reprend entre autres la thèse de l'ouvrage précédent, à savoir que non seulement l'Église fait l'Eucharistie, mais c'est aussi l'Eucharistie qui fait l'Église. Mais vous soulignez aussi que l'ouvrage Méditation sur l'Église traite d'autres thèmes fondamentaux, tels que la double dimension de l'Église comme institution et mystère, et d'autres thèmes encore qui trouveront leur place dans la constitution Lumen Gentium du Concile Vatican II. Après ces trois ouvrages, qui sont avant tout centrés sur l'Église, vous rassemblez une série d'écrits qui ont été publiés pendant ou après la Seconde Guerre mondiale. C'est avant tout, bien sûr, le livre que vous considérez comme étant, avec Méditation sur l'Église, le best-seller, je vous emprunte cette expression, le best-seller du père de Lubac, à savoir le livre de 1944, Le drame de l'humanisme athée, qui présente le diagnostic de l'auteur sur les pensées de Feuerbach, d'Auguste Comte et de Nietzsche. Ces trois penseurs sont en fait très différents. En général, on a surtout retenu la lecture de Nietzsche, soit pour l'approuver, soit pour la discuter, comme l'a fait le père Valadier dans un article des recherches de sens religieuses. Personnellement, je serais porté à penser que la lecture d'Auguste Comte est peut-être celle qui nous paraîtrait aujourd'hui la plus pertinente, car elle introduit en fait une position critique et fort courageuse vis-à-vis de Maurras. Quoi qu'il en soit, le père de Lubac dénonce dans ce livre la tentation de se représenter l'être humain comme pouvant s'affranchir de la référence à Dieu, et le père de Lubac oppose à cela, en fin de volume, l'œuvre du romancier russe Dostoïevski, en qui il voit un véritable prophète du Christ. Vous évoquez aussi le livre d'Henri de Lubac sur Proudhon, qui lui fait l'objet d'une appréciation plus bienveillante que Feuerbach ou Nietzsche, car même si Proudhon s'est présenté comme athée, ou plutôt comme antithéiste, il a eu néanmoins un grand sens de la justice, et même a été marqué très directement par certaines pages de l'Évangile. Vous évoquez aussi d'autres écrits plus brefs, comme l'opuscule de la connaissance de Dieu, et aussi les opuscules ou les écrits qui témoignent de la résistance spirituelle à l'antisémitisme, et qui seront d'ailleurs rassemblés beaucoup plus tard dans un ouvrage de 1988. Une section entière est ensuite consacrée à la théologie du surnaturel. Vous parvenez à résumer en quelques pages la position qui est développée par Henri de Lubac dans son ouvrage fameux de 1946 sur le sujet, puis position reprise et explicitée dans d'autres ouvrages à partir de 1965. C'est précieux car le père de Lubac, reconnaissons-le, développe sa thèse sur le surnaturel à la faveur d'enquêtes historiques fort complexes, très érudites. Vous en montrez en tout cas l'enjeu, qui est de souligner, à l'encontre du néotomisme, que la vocation à connaître Dieu et à l'aimer est offerte à l'être humain dès le commencement, et cela sans que soit mise en cause la gratuité du don de Dieu. Car si l'homme est d'emblée appelé à une fin surnaturelle, c'est que Dieu même lui a librement adressé un tel appel. L'homme est donc nature et esprit, créé comme un être naturel, mais qui, dans sa nature même, est habité par une vocation surnaturelle. Tel est le paradoxe qu'il s'agit de penser. C'est d'ailleurs dans cette même section que vous évoquez aussi les recueils qui sont précisément intitulés « Paradoxes » et qui, par-delà la question spécifique du surnaturel, donnent accès à des thèmes centraux de l'œuvre du père de Lubac. Une autre section porte sur un autre apport essentiel du père de Lubac, ses ouvrages sur l'exégèse spirituelle, le livre « Histoire et esprit sur Origène », les quatre volumes d'exégèse médiévale. Il faut reconnaître que cet apport allait quelque peu à contre-courant de ce qui caractérisait alors l'évolution de l'exégèse au XXe siècle, alors même qu'on était de plus en plus porté, depuis la crise moderniste, à souligner l'importance d'une exégèse critique. Le père de Lubac, sans nier bien sûr la nécessité de cette exégèse critique, remettait au premier plan la préoccupation centrale d'une exégèse spirituelle. Une autre section de votre deuxième partie est également consacrée aux trois ouvrages du père de Lubac sur le bouddhisme. Le bouddhisme qui d'un côté a fasciné le père de Lubac, mais qui surtout l'a conduit à préciser, par contraste, l'originalité fondamentale du christianisme. Vous rassemblez également, par la suite, les écrits du père de Lubac sur les textes conciliaires. Non sans noter que le père de Lubac prend ici ou là quelques distances. Par exemple, à travers ce qu'il dit sur la notion « peuple de Dieu », il semble un peu trop valorisé dans « Lumen Gentium ». Mais on pourrait aussi évoquer des positions par rapport à « Gaudium Spes ». Quoi qu'il en soit, vous évoquez également des ouvrages de la période post-conciliaire, le livre « La foi chrétienne » et le gros ouvrage « La postérité spirituelle » de Joachim de Flore. Dans une autre section, vous évoquez encore les livres consacrés aux frères, comme vous dites, hein, expression que vous employez, pour évoquer bien sûr Yves de Montchaille, mais vous arrêtez en particulier sur le jésuite Teilhard de Chardin, dont le père de Lubac a largement contribué à réhabiliter la pensée. Sans oublier le prêtre lyonnais Jules Montchanin, qui a tant marqué le père de Lubac et qui l'a vraiment initié à l'étude du bouddhisme. Pour finir, bien sûr, vous évoquez le précieux livre du père de Lubac, Mémoire sur l'occasion de mes écrits, mais j'apprécie spécialement que vous ayez terminé cette longue seconde partie par une section sur mystique et mystère, ce sujet qui a tellement retenu le père de Lubac et auquel il aurait voulu consacrer un ouvrage. l'enjeu ultime étant de préciser que même si des mystiques sont présentes dans toutes les grandes traditions de l'humanité, la mystique chrétienne est porteuse d'une originalité propre de par sa référence essentielle au mystère chrétien tel qu'il s'est révélé en Jésus-Christ. Je passerai rapidement sur la troisième partie de votre livre, qui est d'ailleurs plus brève. Vous montrez combien la pensée du père de Lubac a fait l'objet d'une réception magistérielle. Vous abordez ensuite une question qui donne lieu à des positions contrastées. Comment comprendre le dernier Lubac réagissant avec vigueur par rapport à certains courants de l'époque post-conciliaire? Faut-il dire qu'il a été, selon vos propres mots, retardataire, clivant ou précurseur? Vous proposez votre propre réponse en considérant le père de Lubac comme une figure de proue, je vous cite, une figure de proue de l'esprit authentiquement chrétien, une boussole pour discerner le sensus ecclésié entre les tentations des extrêmes, progressisme ou intégrisme, un guide pour revenir aux fondamentaux de la foi chrétienne. Et vous rendez aussi compte des débats que continuent à soulever les vues de Lubac, les vues du père de Lubac sur le surnaturel, sur le drame de l'humanisme athée et sur l'exégèse spirituelle. Je ne reviens pas sur les informations que vous donnez également dans cette troisième partie sur la promotion de l'œuvre du père de Lubac et sur l'ouverture de sa cause de béatification, mais je voudrais simplement terminer, comme cela m'a été suggéré, en vous adressant une question. J'ai été très intéressé par ce que vous dites, page 139, en évoquant une réciprocité féconde entre l'approfondissement du sens spirituel de l'Écriture et l'accroissement du désir de Dieu. Et un peu plus loin, page 159, à propos du livre « Recherche dans la foi », vous écrivez « Voilà une publication qui invite à embrasser d'un seul regard les travaux lubaciens autour de l'exégèse spirituelle, du désir naturel de Dieu et de la philosophie chrétienne. » Alors j'aimerais vous demander, comment pourriez-vous expliciter ce lien fondamental qui unit les réflexions du père de Lubac sur des questions aussi différentes que celles du surnaturel, de l'exégèse spirituelle et de la philosophie chrétienne? Et j'ajouterai, question subsidiaire, mais centrale, quelle place tient ici le Christ? Le père de Lubac n'a pas écrit d'ouvrage de christologie, mais peut-on considérer que la référence au Christ, qui est tout de même très présente par ailleurs dans l'ensemble de son œuvre, contribue à éclairer ce lien profond que vous discernez entre ces vues sur le surnaturel, sur l'exégèse spirituelle et sur la philosophie chrétienne? Merci beaucoup.
Merci beaucoup Michel. Marie-Gabrielle, je vous laisse la parole pour cette réponse.
Tout d'abord, merci beaucoup cher père pour cette présentation très très fidèle et détaillée de l'ouvrage. C'est bien que je n'ai pas choisi cet axe pour présenter le livre, c'est parfait, ça complète admirablement. Merci beaucoup. Alors merci aussi pour votre belle question qui m'amène peut-être à souligner une caractéristique de l'esprit théologique du père de Lubac. C'est cette double respiration qu'il souligne d'un tas de manières dans son œuvre entre intelligence de la foi et intelligence par la foi. Intelligence de la foi, évidemment, c'est le dogme du Christ qu'il s'agit de recevoir dans un acte de conversion au Christ. Et l'intelligence par la foi, c'est finalement cette intelligence renouvelée par l'Esprit du Christ. C'est-à-dire que la nouveauté du Christ est telle, elle est tellement radicale, définitive et infinie, qu'elle génère une nouvelle interprétation de toutes les réalités, y compris les réalités naturelles. Et ici, je rejoins la question de la philosophie chrétienne, je vais être plus détaillée après. Il s'agit de tout reprendre, en fait, à la lumière du Christ. Alors, vous retenez trois pôles qui sont en effet très particulièrement connectés dans l'approche qu'Henri de Lubac a du dogme de l'incarnation, qui est vraiment sa contemplation depuis le début, depuis le temps de sa formation et qui traverse toute son œuvre. ces trois pôles, donc la théologie du surnaturel, l'intelligence spirituelle de l'écriture et la question de la philosophie chrétienne, sont effectivement connexes. La question du surnaturel, en fait, donc c'est proprement le dogme du Christ, donc de l'incarnation du Fils de Dieu. Ce dogme du surnaturel, lui-même, est compris, approfondi, à même l'acte d'intelligence spirituelle de l'écriture. Donc c'est le fruit déjà d'une exégèse spirituelle de l'écriture qui nous permet de discerner ce qu'il y a de spécifique dans le surnaturel chrétien. Ensuite, cette exégèse spirituelle, elle est identique à l'effort d'intelligence de la foi à travers les siècles et a été l'occasion du développement d'une pensée chrétienne intégrale. Et Henri de Lubac a très à cœur cette question d'une pensée chrétienne intégrale, parce qu'il est très conscient du fait que la meilleure arme par rapport à la menace de l'athéisme, par rapport à la menace qui nous touche tous, de toute façon toujours, du déclin de la foi, la meilleure arme, c'est le témoignage de la foi. Mais le témoignage de la foi doit pouvoir être nourri par une pensée charpentée. Et cette pensée charpentée, elle se développe justement donc au contact de la parole de Dieu, à l'intérieur de laquelle on fait l'expérience de cette conversion permanente au Christ. Donc l'exégèse spirituelle qu'Henri de Lubac présente dans son ouvrage « Histoire et esprit » qui en fait traite plus spécifiquement de l'intelligence de l'écriture selon Origène, il présente cette exégèse spirituelle sous l'angle de la conversion au Christ. Elle est identiquement la conversion au Christ. Et c'est ça qui, à mon avis, fait le point commun. C'était justement un lieu essentiel de ma thèse, de montrer comment la théologie du surnaturel et les travaux sur l'exégèse spirituelle de l'écriture coïncident pour montrer cette exigence de la conversion au Christ. Et dans son article de 1936 sur la philosophie chrétienne, lorsqu'il prend position dans le débat des années 30 sur la question « Existe-t-il une philosophie chrétienne ?», il présente, après les différentes positions existantes, cette piste d'une philosophie chrétienne par génération, si je puis dire, c'est-à-dire la philosophie issue de la conversion de l'intelligence au Christ, une philosophie qui reprend la totalité du réel dans la dépendance lumineuse de Dieu, à la lumière du Christ, donc une philosophie qui prend la raison à la source en optant pour une reconnaissance du fait que le Christ est la vérité, et donc le Christ comme paradigme, comme paradigme herméneutique pour interpréter la totalité du réel. Voilà.
Merci infiniment Marie-Gabrielle, merci Michel pour vos contributions. Je crois que nous avons là à la fois dans votre dialogue à tous les deux et dans le dialogue entre Lucio et Alban, de quoi largement écouter vos questions. Peut-être que Marie-Gabrielle, tu peux rester là. Michel, te voilà parti. Mais les questions peuvent porter sur les deux ouvrages et donc sur nos quatre contributeurs. Alban prendra la parole à la place de Luigi si vous avez des questions sur Fessard. Donc la parole est à vous. Éventuellement, je vais m'occuper de distribuer le micro. Voilà. Si tu veux bien venir, Michel, pour pouvoir répondre aux questions de la salle.
Est-ce qu'il y a des questions?
Viens ici. Oui, tu peux revenir.
Est-ce qu'il y a une première question?
Alors, Alors moi, je veux bien lancer la première question, comme ça, ça vous permettra de contribuer. Au fond, c'est une question pour tous les trois. Est-ce que vous pourriez dire que l'amitié qui était tout à fait caractérisée, et Michel, tu l'as souligné, qui est liée à ces longues années d'études communes dans la formation jésuite, est-ce qu'on pourrait dire que ces deux penseurs, qui étaient deux amis, sur cette question-là, sur ce que Marie-Gabrielle vient de déployer, c'est-à-dire la centralité de l'incarnation, est-ce que quelque chose dans leur manière de penser les questions de leur temps, les questions politiques, économiques, sociales, on pourrait dire, puisque tous les deux se sont engagés sur ces questions-là, au fond, est-ce que vous pourriez dire que c'est cette même veine christologique qui anime les deux ?
Bon, je vais commencer comme ça, quand je me perds, tu me récupères en vol.
La théologie au secours de la philosophie.
Spontanément, je trouve que c'est une belle et bonne question. Effectivement, le dogme de l'incarnation oblige à penser justement le rapport entre nature et surnaturel, dont les termes finaux, parce qu'on retient le couple conceptuel nature-surnaturel, mais derrière ce couple conceptuel, c'est le rapport liberté et grâce dont il est question. C'est le rapport liberté et grâce. Et donc, la question de l'engagement de la liberté. La grâce n'aplatit pas, n'écrase pas, ne court-circuite pas la liberté. Ce n'est pas une question de vase communicant entre liberté et grâce. C'est exactement le contraire qui fonctionne. La grâce suscite la liberté. Mais donc, la suscite et l'exige d'une certaine manière. Il y a un paradoxe de l'exigence du surnaturel. J'ai bien aimé dans l'exposé sur Gaston Fessard, lorsqu'il a été question de cette exigence d'habiter l'histoire en homme libre. Il y a beaucoup de choses qui sont dites dans cette petite phrase. L'exigence d'habiter l'histoire en homme libre, c'est une question très grave. C'est vraiment le drame de l'existence humaine, finalement. Voilà.
Je suis bien sûr avec toi, Marie-Gabrielle, sur cette question. Je crois que Lubach et Fessard, dès leur premier temps, quand ils travaillaient à l'Académie de la pensée, voulaient voir justement comment toute action libre est poussée par le fait du Christ, de l'incarnation. Ça se traduit très simplement chez Fessard par un essai de jeunesse qui s'appelle « Connaissance de Dieu et foi au Christ selon saint Paul », qui va être publié 40 ans après sa rédaction dans des actes d'un colloque et qui sera il est encore étudié au Bernardin par les étudiants en théologie. Comment le fait du Christ change tout, quand même, un peu comme ce que tu nous as dit. C'est tout simplement un Fessard ignatien. L'acte libre, l'acte de la liberté, ou qui passe par la reconnaissance du Christ comme gond de l'histoire. Il aime utiliser cette expression philosophique. Le Christ gond de l'histoire, c'est par toute l'histoire danse autour du Christ. Et je crois que quand son premier livre s'intitule Pax Nostra, c'est bien parce que il fait une philosophie à partir du Christ. Ipse est Pax Nostra, lui-même est notre paix, c'est le Christ qui est notre paix. C'est Éphésiens, chapitre 2, verset 14. Hein, il a détruit le mur de l'inimitié, cette inimitié qui est présente dans toute l'humanité, eh bien, le Christ a permis aux hommes de se retrouver dans l'unité du genre humain. Et on sait que ce sont deux philosophes et théologiens de l'unité.
Vous voyez quelque chose à dire ?
Tout ça ne fait que faire ressortir l'énigme que le père de Lubac n'a pas écrit des livres d'ouvrages sur le Christ, alors qu'il a tant écrit par ailleurs, c'est étonnant. Alors, la référence au Christ est partout présente dans son œuvre, comme vous l'avez très bien montré.
Oui, il a d'ailleurs vivement regretté de n'avoir jamais écrit cet ouvrage auquel il pensait toujours qu'il portait en lui. Et c'est un point commun avec l'ouvrage sur mystique et mystère qu'il n'a jamais écrit non plus. Et c'est clairement lié, quoi. La mystique chrétienne et le mystère du Christ sont le double poumon de l'œuvre théologique du père de Lubac. Et voilà. Au passage, d'ailleurs, je pense que c'est quand même utile de signaler la parution aux œuvres complètes de Mystique et Mystère, qui n'est pas l'ouvrage même qu'Henri de Lubac n'a jamais écrit, mais qui rassemble un tas de textes consacrés à cette question. Bon, voilà.
On entend, oui. Le dialogue
oui,
entre Fessard
donc
et
voilà. Ma question, c'est quelle place a Teilhard dans ce dialogue ? Est-ce que c'est vraiment un dialogue Fessard-Lubac ou est-ce que il y avait plutôt un trilogue avec également les travaux de Pierre Teilhard de Chardin ?
Alors historiquement, ça c'est amusant parce que dans la nécrologie de Fessard paru dans Le Monde, il est écrit que Fessard était le père spirituel de Teilhard de Chardin, si vous regardez dans les archives du Monde. Or, c'est bien sûr impossible. Teilhard est déjà un jésuite mûr, quand Fessard est un scolastique. Et précisément, Fessard reçoit de la part de ses supérieurs la mission de veiller sur le père Teilhard de Chardin. Hein, rue Monsieur en particulier, où les deux habitaient. De Teilhard, Fessard a reçu, je dirais pas un dégoût, mais en tout cas un avertissement vis-à-vis de la scolastique. C'est assez teilhardien de la part de Fessard de dire attention, il faut pas se battre contre l'athéisme avec les armes du XIIIe siècle. La scolastique, elle a été utile, mais on a besoin de prendre en compte justement toute l'évolution de la pensée et on n'a pas à en avoir peur parce que le Christ est là, même dans ses oppositions, même dans l'athéisme. Donc, et là, il y a peut-être quelque chose de teilhardien dans une confiance dans l'histoire. C'est pas simplement hegelien. Il y a quelque chose de teilhardien dans cette dynamique qui nous pousse vers l'unité, vers le point oméga, si vous voulez. Alors, il n'utilise pas le vocabulaire teilhardien, mais je pense que Fessard, il a écrit une défense de Teilhard. Il a été, notamment les courants traditionnalistes, c'était une des accusations. Parce que vous êtes un ami de Teilhard, vous n'êtes pas des nôtres. Eh bien, il a dit, oui, effectivement, moi je vais vous montrer comment Teilhard a raison. Et je pense que Lubac a aussi accompagné Teilhard et a assuré la défense de Teilhard. Et lui, même sur le plan institutionnel.
Oui, je verrais peut-être un petit point à ajouter. Fessard, Lubac et Teilhard se rejoignent peut-être sur un point en particulier, c'est l'effort de déployer une pensée chrétienne forte et intégrale. Je reviens sur ce point parce que c'est important. On s'est retrouvé à peu près soudainement face à des doctrines totalitaire, athée, qui proposait une vision du monde qui remplit, qui coche toutes les cases de recherche de sens de l'être humain. Et donc, on était face à la nécessité de repenser, de reprendre possession chrétiennement de la grande question de l'interprétation du sens de l'homme, du sens de l'histoire. Et je trouve que ces trois jésuites ont bien intuitionné cette urgence-là et se caractérisent par cette audace quand même extraordinaire, hors norme quand même, hors du commun, l'audace de proposer une réflexion essentielle sur sur tous les aspects de sur toutes les dimensions de l'existence et de la réalité. Oui.
Oui, merci beaucoup pour vos deux exposés. Ma question porte sur l'amitié entre Lubac et Fessard. On sait qu'ils sont quasi contemporains. Vous avez, quelques mois après, je crois. Ouais. Vous avez évoqué les amitiés, les sympathies proudhoniennes de Lubac dans l'exposé. Je voulais savoir s'ils avaient connu un conflit sur le rapport au communisme et sur, du coup, ce que ça peut évoquer l'universalisme chrétien. Autant sur le nazisme, je crois savoir que leur position était assez semblable. Mm-hmm. Autant sur le communisme, si Fessard a pas craint de prendre un tour très polémique dans France prend garde de perdre ta liberté, je suis pas sûr de. Enfin, je ne connais pas assez bien la position de Lubac pour savoir s'il n'y a pas eu une dissension ou sur cet aspect ils divergent tous les deux, ils divergent ou pas.
Oui, c'est
bien documenté. Hein, c'est...
Pardon.
C'est bien documenté.
Qu'est-ce qui est bien documenté?
Cette tension entre
les deux, au sujet
des communistes.
Oui, c'est ça. C'est un point qui revient souvent.
Giulio l'a évoqué tout à l'heure. Hein, il y a un article de Frédéric Louzeau spécialement sur cette question. Mais tu l'as et dans les actes du colloque, tu en traites.
J'avais parlé de ça,
ta propre interprétation, Marie-Gabrielle.
Avec ma propre interprétation, donc. Faudrait que je retrouve. Enfin bon, oui c'est ça. Donc quand Henri de Lubac relisait systématiquement les textes de Gaston Fessard. La réciproque est relativement vraie également, donc c'est une belle réciprocité. Mais lorsqu'il lit le manuscrit du texte qui va donner donc comme titre France prend garde de perdre ta liberté en 1946, Henri de Lubac n'est pas enthousiaste d'emblée. Mais ce n'est pas une question de réserve sur le fond, c'est sur la forme, et ça c'est très important. Il craint que la mise en comparaison d'entrée de jeu, spontanément, entre la démarche du communiste et la démarche du nazisme, soit finalement... de nature à susciter une incompréhension justement du parallélisme que fait Gaston Fessard. En fait, ce qu'il dit, c'est que les situations ne sont pas objectivement les mêmes. On a d'un côté le nazisme avec son régime totalitaire et de l'autre des chrétiens qui sont séduits peut-être par la pensée marxiste, mais avec des intentions nourri par un amour de l'Évangile, il y a quelque chose de plus subtil, disons, qui nécessite également de ne pas faire un simple parallélisme qui serait trop dur et qui finalement serait injuste à l'égard de certaines intentions bonnes qui pouvaient présider de la part de chrétiens communisants. Ça, c'est un point. Mais surtout, donc comme je disais, c'est sur la forme plus que sur le fond. Cela étant dit, Il rejoint profondément, je crois, le diagnostic de Gaston Fessard sur le caractère totalitaire, finalement, de la pensée communiste, puisque Henri de Lubac, dans un texte intitulé « Double fidélité », qui à l'époque n'avait pas pu être publié pour des raisons X et Y, justement on dit qu'on ne peut pas servir à la fois l'évangile et un parti totalitaire. Et c'est une illusion de croire que en servant une pensée totalitaire, on va pouvoir faire la part des choses. Non, parce que cette pensée tendra finalement à tout absorber, et c'est l'évangile du Christ qui passera à la trappe.
Merci.
Je ne vois aucune main levée, donc je suppose que les questions seront peut-être pour la lecture. Donc je vous redis que nous avons un stand de la librairie qui va permettre que vous puissiez acquérir ces ouvrages. Je vous remercie tous les trois d'avoir contribué à l'intelligence de ces deux grands penseurs jésuites dans cette maison ici à Loyola. Et vous souhaite à tous de peut-être revenir si le travail autour de Lubac vous a donné du goût à la rencontre du 8 avril où Michel Feydeau présentera son ouvrage. Merci à vous tous. Très bonne soirée.
Merci à vous.
Merci à vous.